kazi ya vita kuharibu na kuua, kupanda chuki na kulipisha kisasi, na kuyarudisha maendeleo nyuma. Mazungumzo ndicho kiti cha amani, kimya na upendo ni sabuni ya roho.
L'information est un élément de connaissance, alors soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radio-journales. Au sommaire, 5 armes ont été récupérées et 52 suspects interpellés, dont une femme. C'est le bilan d'une opération de bouclage menée ce mardi 30 septembre dans les avenues Irambo, quartier Latin et Kansayo, quartier Nyalukimba, dans la commune d'Ibanda. Au cours de cette opération, des chanvres ainsi que des faux billets des banques ont également été découverts dans certaines maisons. On en parle dans cette édition du journal. Au sommaire également, plus de 100 000 personnes ont fui le groupement d'Endouba, Kanyola et Walungu au mois d'août dernier suite à l'intensification des violences dans la chefferie d'Engweshe. L'information est rapportée dans le dernier bulletin humanitaire de septembre publié par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad en sigle. Au moins 45 personnes du troisième âge sont mortes depuis février dernier, faute d'encadrement dans la province du Sud-Kivu. C'est ce qu'on dit que l'Union des personnes du troisième âge, IPTA en sigle, à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées célébrée chaque 1er octobre. La technique est assurée par Barton Boussi, mais au microphone pour la présentation, je suis Omer Moudekireza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Et nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition du journal, 5 armes récupérées et 52 suspects appréhendés, dont une femme. C'est le bilan d'une opération de bouclage menée la matinée de mardi sur les avenues Irambo, quartier Latin et Kansayo, quartier Nyalukimba dans la commune d'Ibanda. Cette opération a été menée conjointement par les services de sécurité et des renseignements de l'AFC M23 avec le concours des autorités civiles. Expédie Kialou pour les détails.
À cette même occasion, du chanvre et des faux billets de banque ont été retrouvés dans certaines maisons de la place. Les avenues ciblées sont situées dans le voisinage du camp Sayo qui avait été déserté en février dernier par les corps d'essai lors de l'arrivée de l'AFC M23, donnant ainsi la possibilité à plusieurs jeunes du milieu de s'y procurer des armes. Selon le bourgmestre ad intérim de la commune d'Ibanda, Akuzumana Kanan Jonathan, cette opération a été menée dans le souci de récupérer les armes gardées dans les maisons et pour mettre la main sur les présumés auteurs de l'insécurité dans cette partie de la ville de Bukavu. Le bourgmestre ad intérim d'Ibanda rappelle que 2 cas de braquage ont été enregistrés en l'espace d'un mois seulement dans ce coin de sa juridiction, précisément en Gouba. Le dernier cas a été signalé vendredi dernier sur avenue Évariste Baganda et un des braqueurs a été neutralisé pendant que ses complices avaient pris fuite vers les avenues concernées par le bouclage de ce mardi, ajoute Akuzumana Kanan. Il s'agit de préciser que pendant cette opération, des hommes, jeunes et vieux, ont été regroupés au terrain du camp Sayou. Sur place, le maire de la ville de Bukavu, Ladislas Muganzam, les a sensibilisés sur la nécessité de coopérer avec les services de sécurité en dénonçant tout cas suspect. Ces derniers ont regagné leur domicile après ce meeting et les 52 suspects sont restés entre les mains de services de sécurité pour prouver ou pas leur culpabilité, considérant qu'ils jouissent de la présomption d'innocence, conclut notre source.
Et pendant ces temps, de bandits armés ont attaqué l'îlot d'Iré dans le territoire d'Idui, où ils ont emporté de grosses sommes d'argent et autres biens de valeur la nuit du dimanche au lundi 29 septembre 2025. Des témoignages sur place affirment que ces bandits ont séquestré des habitants avant de récupérer de l'argent et d'autres biens de valeur dans cette maison de la place. Ces derniers ont tiré aussi des coups de balles sur les lieux où ils ont opéré en toute tranquillité, affirme l'un des habitants de cette partie du groupement Nyakalengwa en chefferie Tambuka. Issa Ngirupatse, l'une des victimes, note que ces bandits ont emporté plus de 700 $ américains et plus de 300 000 francs congolais avec d'autres biens des paisibles citoyens. Et nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition du journal. Plus de 100 000 personnes issues de groupements d'Indouba, à Kanyola et Walungu ont fui vers diverses destinations suite à l'intensification des affrontements dans la chefferie d'Engweshe au mois d'août dernier. En territoire de Fizi, des combats ont provoqué le déplacement de plus de 11 000 personnes, accentuant la crise humanitaire. Encore une fois avec vous, Expedi Kialou.
Ces chiffres sont rapportés par le bureau de la coordination des affaires affaires humanitaires de l'ONU, OCHA en sigle, dans son rapport du mois de septembre 2025 portant sur la situation humanitaire au Sud Kivu. Dans ce rapport qui couvre la période allant du 1er au 31 août 2025, OCHA rapporte une intensification des hostilités armées dans plusieurs territoires du Sud Kivu, y compris Walungu. En groupement de Kanyola, par exemple, OCHA rapporte le déplacement de plus de 1815 ménages vers d'autres villages jugés calmes. Les personnes qui ont quitté les groupements d'Enduba et Walungu ont fui vers plusieurs localités dont Izegye, Mukama, Murangam, Tchagala, Malangiro, Izirangabo et consorts, ajoute cette agence onusienne. En revanche, en territoire de Fizi, des combats ont entraîné des déplacements de plus de 11 000 personnes vers des villages de la zone des santé de Nundu. OCHA indique avoir mené une évaluation avec ses partenaires et il en ressort que plus de 57 000 personnes déplacées internes, soit environ 9 539 ménages, se retrouvent actuellement dans les zones de santé de Fizi et Nundu. Depuis février 2025, ces personnes vivent dans des familles d'accueil sans aucune assistance humanitaire, fait savoir notre source. Par ailleurs, en territoire de Mwenga, depuis le 9 août dernier, les combats entre groupes armés dans les villages de Mikenge, Bilalombili, et Touetoué ont forcé environ 7000 personnes à fuir vers les localités de Point Zéro et Bichaka. Du 16 au 18 août, au moins 8 civils ont été tués lors des affrontements dans les localités de Kipupu, Mikenge, Magungu et Tulambo, des affrontements ayant également provoqué le déplacement de 2000 personnes vers les localités de Kibanda, Ngando, Isopo, Kekanga, Kitoga, Kalingi et Kakogo, selon la société civile locale citée par OCHA. Du 23 au 24 août, 8 autres civils ont été tués et 11 femmes ont été violées au cours d'attaques d'éléments armés à Basimukunje 1 et 2. Ces attaques ont également provoqué le déplacement de plus de 6200 personnes, soit 1245 ménages, vers Magunda, Miki, Makenda, Kalipeo et Batende. Cette organisation rapporte d'autres incidents dans les territoires de Kabare et Calais qui ont entraîné des déplacements tout en précisant qu'un calme relatif a été observé sur l'ensemble de la ville de Bukavu.
Merci à vous, Expedi, qui a lu dans un autre chapitre les doyennes et doyens de la société civile du Sud Kivu soutiennent le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, précisant que ces projets constituent une opportunité majeure pour la paix et le développement dans l'est de la RDC ainsi que dans l'ensemble de la région des Grands Lacs africains. Et l'on fait savoir dans une note de plaidoyer adressée à Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique Fort Gnassingbé, président du Togo et médiateur de l'Union africaine dans le conflit de l'Est de la RDC. Une note également consultée par Radio Maïndéléo mardi 30 septembre 2025. Hélène Boudjiriri pour les détails.
Dans cette correspondance, les doyennes et doyens de la société civile du Sud Kivu expliquent que les violences, les guerres et les génocides ont trop longtemps marqué la RDC, les Rwanda, les Burundi et l'Ouganda, ce qui fait que les populations attendent désormais des solutions durables. Les signataires demandent à la communauté internationale et les États de la région à s'unir pour mettre fin au conflit et à bâtir une région prospère, respectueuse des droits humains et équitable pour tous. La société civile précise également que la réussite de ces partenariats dépendra d'une part de la capacité des États-Unis à appuyer la RDC dans la lutte contre la corruption et d'autre part de la pression exercée sur les belligérants pour réduire la violence. Par ailleurs, elle rappelle que la RDC pourrait devenir un moteur de développement régional si la gouvernance était plus efficace pour soulager les populations de l'Est, proposent les doyennes et doyens de la société civile du Sud Kivu. Il est nécessaire d'ouvrir rapidement des couloirs humanitaires et de fournir nourriture et médicaments aux populations vulnérables. De surcroît, la participation des jeunes, des femmes et de toutes les forces vives de la région est essentielle pour le succès de ces projets, soulignent les doyens et doyennes de la société civile. Pour assurer le succès du partenariat, il est indispensable de mobiliser et d'impliquer les organisations régionales, telles que l'Union africaine, la SADC et la Communauté des États d'Afrique de l'Est, tout en coordonnant leurs actions avec les initiatives déjà existantes dans la région. En outre, la collaboration avec les partenaires européens et internationaux engagés en RDC permettrait de renforcer la sécurité, soutenir la paix et faciliter le développement économique, indiquent les signataires. Une telle approche correspond coordonnée et inclusive qui combine efforts régionaux et appui international constitue un gage de durabilité et de réussite du projet, précise les doyennes et doyens de la société civile du Sud Kivu.
Merci à vous Hélène Boudjiriré. Dans une autre note de plaidoyer adressée cette fois au ministre d'État des Affaires étrangères du Qatar, les doyens de la société civile Force Vive du Sud Kivu expriment des inquiétudes et doutes sur les contenus du projet zéro d'accord de paix global du 14 août dernier. Selon eux, il contient des clauses léonines qui remettent en question le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est entre autres l'idée contenue au point B de l'article 6 relatif à la délivrance des documents d'identité et de voyage aux résidents de la région touchée, en particulier aux membres des communautés vulnérables. Cela paraît tendancieux et donnerait lieu à une discrimination en faveur d'une région et des communautés prétendues vulnérables que les autres sont dans le même pays et une même nation, précise les doyens de la société civile. Cette disposition piétine ainsi l'égalité de tous les citoyens devant la loi et l'unité nationale, ajoute-t-il. Les doyens de la société civile s'opposent également à l'idée de la création d'une force spéciale intérimaire pour la région touchée, ce qui consacrera la balkanisation du pays. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maendeleo émettant en direct de la ville de Bukavu.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Échangeons des chapitres à présent. Disons que certains abonnés de la régie des eaux dans la commune de Baguira exigent l'application stricte de la note de service du 19 septembre 2025 signée par la hiérarchie provinciale de la régie des eaux, fixant en $75 le coût du raccordement promotionnel. Ces derniers l'ont fait savoir dans une dépêche parvenue à Radio Maindeleo mardi 30 septembre 2025. Mireille Moufano pour les détails.
Il dénonce les comportements de certains agents qui exigeraient en complicité avec certains gestionnaires qui exigent des montants largement supérieurs aux tarifs officiels durant cette période promotionnelle accordée. Dans cette dépêche, les abonnés indiquent qu'un lieu eut place de payer $75 comme indiqué. Le montant payé va jusqu'à $70, une situation qui compromet le succès de la campagne et ternit l'image de la régie des eaux. Les abonnés de la régie des eaux à Baguira appellent le responsable de cette société à rappeler aux agents concernés l'obligation de se conformer à cette directive. Contactez les directeurs provinciaux de la régie des eaux. Moudoumbi Mouézé précise qu'il s'agit d'un problème d'incompréhension. Il précise qu'à la régie des eaux, il exige deux types de raccordements, à savoir le raccordement normal ou fait en exploitation et les raccordements promotionnels. Pour le premier, le client doit respecter toute la procédure de constitution du dossier, notamment le paiement de frais de mesurage, pour permettre l'élaboration d'un devis adapté à la réalité du terrain. Par un technicien de la régie des eaux viennent ensuite l'achat du matériel et le raccordement proprement dit. Concernant le raccordement promotionnel, notre source précise qu'il est fixé à $130, dont $75 comme frais de raccordement et $55 pour le frais administratif et technique. Le directeur provincial insiste sur le fait qu'aucun agent n'est autorisé à exiger plus que ces montants et aucun frais supplémentaire ne permet dans les cadres de ce raccordement promotionnel. Moudoumbi Mouézé met par ailleurs en garde contre deux personnes qui se font passer pour des agents de la régie des eaux et sème la confusion au sein de la population. Il invite les habitants du Baguira et d'Engouba, deux entités concernées par cette promotion, à faire preuve de prudence pour ne pas se faire arnaquer. Les directeurs régionaux de la régie des eaux Moudoumbi Mouézé en parlent.
Il s'agit d'un problème d'incompréhension. Incompréhension puisque les choses sont claires. La vraie information, c'est que chez nous, il y a deux types de raccordements. Il y a les raccordements faits en exploitation, il y a des raccordements promotionnels. Concernant les raccordements promotionnels, c'est le cas de Baguira et Ngouba. Prenons le cas de Baguira qui pose problème. Les raccordements sont fixés à $130. $75, les frais, tous les raccordements compris, mais il y a $55 pour faire 130 qui concerne les frais administratifs, les frais techniques. Il y avait eu des faux agents qui ont circulé pour chercher à rançonner les gens. Et la régie des eaux a fait un communiqué. La réalité, c'est $130 de raccordement. Il n'y a pas d'autres frais qu'on peut donner en dehors de 130. Il n'y a pas de $20 de descente sur terrain, non, il n'y en a pas. Pour les raccordements promotionnels, il n'y a pas de frais de descente sur terrain, de $20, non, ça n'existe pas.
Il exhorte ainsi les abonnés du Bagheera à continuer de payer leurs factures en souffrance pour permettre la régie des eaux de poursuivre la fourniture en eau potable.
Et dans le même chapitre, le directeur régional de la Régie des eaux est invité à mettre en place une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur la situation qui prévaut à l'agence des Bagheera dans la ville de Bukavu. La recommandation est de Benjamin Chiswaka, journalier à la Régie des eaux, dans une correspondance adressée à sa hiérarchie et dont une copie est parvenue à la rédaction de Radio Maïndéléo mardi 30 septembre 2025. Benjamin Chiswaka dénonce les accusations portées contre lui, affirmant que c'est lui qui serait l'auteur des cas d'arnaque dans l'octroi de nouveaux accordément dans cette partie du Sud Kivu à prix exorbitant, soit à plus de 170 dollars américains, contrairement au prix fixé par la direction de la Régie des eaux. Tout en qualifiant ces accusations de mensongères et qui portent atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa sécurité, Benjamin Chiswaka s'est dit disposé à collaborer pleinement pour mettre de la lumière dans ces dossiers. Il en parle.
Dans les contenus, j'étais surpris sur les réseaux sociaux et sur les médias. J'étais surpris, c'était le 26, j'étais surpris que je suis des escroqueries, monnayage de l'argent auprès des abonnés de Bagheera. Quand j'ai appris ça, je me suis demandé pourquoi ça. Et on me traite comme si je n'étais pas un agent de la Régie des eaux plus de 15 ans. J'ai servi cette agence de Bagheera, mais à l'arrivée de maman chef d'agence en train de me coincer comme si je suis un voleur, oh, je suis un bandit, j'ai monnaie des index, j'ai fait tout ça. Pour moi, je demande au directeur d'amener une enquête très sérieuse, une enquête indépendante, qu'il amène l'enquête sur les abonnés, tous les abonnés déjà raccordés, tous les abonnés qui ont eu des compteurs, qu'on les enquête, qu'on donne des solutions pour que je sois vraiment en sécurité.
Celui-ci précise qu'il reste disposé à fournir les éléments pouvant apporter la lumière dans ces dossiers afin que le directeur régional prenne une décision qu'il souhaite juste et équitable. Échangeons des chapitres à présent. Comme d'ailleurs annoncé au sommaire de cette édition, au moins 45 personnes de troisième âge sont mortes depuis février 2025 par manque d'encadrement dans la province du Sud Kivu. Ces personnes sont réparties dans 8 organisations réunies au sein de la synergie des organisations qui se chargent des personnes de troisième âge en province. Cette révélation est défi Del Kabera, coordonnateur de l'Union des personnes de troisième âge UPTA en sigle, en marge de la journée mondiale des personnes de troisième âge célébrée le 1er octobre de chaque année. À l'en croire, depuis le début des hostilités en province, les personnes de troisième âge traversent plusieurs difficultés. C'est notamment le manque de partenaires pour assurer leur encadrement, une situation qui est à la base du nombre élevé des décès enregistrés ces derniers temps. Fidel Kabera ajoute qu'actuellement, les personnes de troisième âge sont en besoin d'accompagnement, notamment en nourriture, en soins médicaux, mais les organisations ne savent y apporter des solutions. Ils sollicitent les secours de tout un chacun selon ses moyens pour leur venir en aide. On l'écoute.
Ils ont des problèmes énormes. Ils restent dans leur maison, ils ne marchent même plus. Personne ne les assiste. Il y avait des personnes qui les aidaient. Les uns sont partis. Ils ont fui la guerre. Les autres sont là et ils n'ont plus rien, pas de moyens parce que les banques ne fonctionnent pas. Donc, tous ceux-là qui aidaient ces personnes de troisième âge sont en difficulté. Alors, ces problèmes-là, ça se répercute sur la vie quotidienne des personnes de troisième âge. Directement, ils sont en train de mourir en cascade. Depuis février, nous avions perdu 45 personnes de troisième âge. D'autres sont malades, nécessitent des soins médicaux, mais personne ne les vient en aide. C'est là aussi qui ont la famine. Ils sont en train de manger la boue. Ils sont en train de croquer le sol là. Ils prennent de l'eau, ils dorment.
Cette année, la journée mondiale des personnes de troisième âge est célébrée sous le thème « Donner du pouvoir aux voix des personnes âgées pour un avenir inclusif ». Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons que le gouvernement congolais est appelé à adopter des mesures concrètes telles que la formation d'interprètes en langue des signes, l'aménagement d'infrastructures inclusives et l'intégration des sourds-muets dans les politiques publiques. Recommandation de Blaise Boulonza, coordonnateur de l'ASBL Initiative pour un avenir meilleur, INAM en sigle, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des sourds célébrée le 30 septembre de chaque année. Celui-ci indique que plusieurs enfants sourds grandissent sans accès à une école adaptée, alors que la Constitution consacre le droit à l'éducation pour tous. Celui-ci s'est dit inquiet du sort réservé aux personnes vivant avec une déficience auditive. Il parle de l'exclusion persistante de cette frange de la population des services sociaux de base, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'information et même de la sécurité. Le coordonnateur des INAM, Blaise Boulonza, en parle.
Les personnes sourdes constituent à Bukavu une minorité exclue des programmes de santé, de développement ou d'autres programmes importants qui concernent l'homme, en raison d'une méconnaissance de leur groupe et de leur langue des signes. Plusieurs de ces enfants, plusieurs Sourmioué n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. À titre d'exemple, il n'y a qu'une seule école à Bukavu qui dispose des mécanismes appropriés pour recevoir cette catégorie d'enfants. Et pourtant, vous le savez, la constitution de notre pays dispose que tout le monde a droit à l'éducation. La situation actuelle les fragilise davantage. En fait, signalons que leur nombre a augmenté à la suite de tout ce que nous sommes en train de connaître, aussi des mutilations causées par les violences et de la guerre, mais aussi certaines d'entre elles ont perdu la vie par manque d'assistance pendant les bousculades et en André, par les attaques. Donc, la situation est catastrophique et il faudrait que le gouvernement actuel s'implique de manière soutenue pour permettre à cette catégorie de personnes de vivre convenablement comme tant d'autres citoyens.
Notre source souligne également que les conflits et les déplacements dans la région ont accentué la vulnérabilité de ces personnes, souvent oubliées dans les stratégies d'intervention, d'où l'appel à une action plus soutenue en leur faveur.
La revue de presse, Radio Mandelieu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Le manque de touristes dans le parc national de Kahuzi-Biega depuis 8 mois et la situation humanitaire des déplacés internes font partie des sujets commentés par la presse à Bukavu. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
Parc national de Kahuzi-Biega, PNKB, aucun touriste depuis 8 mois, titre les médias en ligne terranova.cd. Le parc national de Kahuzi-Biega n'a enregistré aucun touriste depuis maintenant 8 mois. C'est la suite au conflit armé qui sévit dans l'est de la RDC, poursuit les médias. Dans une communication rendue publique, le parc national de Kahuzi-Biega affiche une attitude d'espoir pour les jours à venir. Zéro touriste depuis 8 mois, mais toujours beaucoup de reconnaissance pour ceux qui continuent de penser au parc et à sa biodiversité. Le parc remercie tous les passionnés et tour opérateurs qui continuent de demander des nouvelles. Les activités touristiques du parc sont en pause depuis février 2025 à cause de la situation actuelle, mais le parc garde l'espoir des jours meilleurs pour accueillir à nouveau ses visiteurs, déclare le PNKB. Pour le PNKB, le tourisme peut être un moteur des changements positifs pour les communautés, la nature et la paix, renchérit Terra Nova. Dans un autre chapitre, JamboRDC.info parle de la situation des déplacés internes dans les territoires décalés. La situation humanitaire des déplacés internes dans les territoires décalés au sud Kivu en ce début de la saison des pluies est caractérisée par des conditions de vie précaires, note JamboRDC, précisant que certains qui se sont confiés à lui évoquent des problèmes liés au manque d'abri, d'eau potable, de nourriture et d'accès aux soins de santé, une situation qui aggrave des risques sanitaires telles que des maladies infectieuses, contagieuses et hydriques. Nous vivons difficilement, nous sommes mouillés par la pluie jour et nuit par manque d'abri adapté au logement. Les enfants tombent malades par manque de nourriture et nous n'avons pas accès aux soins de santé de qualité, confie l'un des déplacés contactés par Jambo RDC. Même préoccupation pour cet autre déplacé qui déplore la vie misérable dans laquelle il se trouve depuis le mois d'avril dernier, période qui marque leur déplacement suite à la aggravation de la violence dans la zone. Nous n'avons pas accès aux produits de première nécessité tels que du sel, savon et huile. Trouver l'argent à payer la facture médicale est un problème. Les femmes enceintes mettent au monde dans des conditions inhumaines. Jambo RDC souligne que ces populations, déjà nombreuses à cause des conflits armés et des catastrophes naturelles, se trouvent vulnérables face aux intempéries qui détruisent leurs habitations et entravent l'accès à l'aide humanitaire.
Un communiqué avant la fin de cette édition du journal. Ce mercredi 1er octobre 2025, le monde célèbre le 34e anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées. Le thème de cette année est donner du pouvoir aux voix des personnes âgées pour un avenir inclusif. L'objectif de cette journée est de sensibiliser la population aux défis du vieillissement, de lutter contre la discrimination et l'isolement, de valoriser les contributions des aînés et de promouvoir des politiques visant leur bien-être, leur dignité, leur inclusion sociale et leur respect respect de leurs droits. Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la création du 1er octobre comme la journée internationale pour les personnes âgées, telle mentionnée dans la résolution 45-106. La plateforme Wazewetu, Huawei en sigle, demande à toutes les familles de mettre en avant les talents, les contributions et la participation des personnes âgées dans la société, valoriser leur savoir et expérience, favoriser l'inclusion, le soutien et sensibiliser contre l'âgisme. Au pouvoir public, d'associer les personnes âgées dans le processus de prise de décision pour une bonne protection sociale concertée, créer du lien et lutter contre la solitude. Aux autorités nationales, provinciales et municipales, de garantir une vie digne aux personnes du troisième âge en respectant les prescrits de l'article 58 de notre Constitution. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et de mettre en application les textes protégeant les personnes âgées. Enfin, à toutes les personnes âgées de se mettre ensemble afin de réclamer leurs droits et de porter loin leurs cris de péril. Ainsi fait à Bukavu, le 30 septembre 2025, pour la plateforme Wazewetu, révérend Abbé Jean-Claude Chabouine-Chiza, secrétaire exécutif ad intérim, signe. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle de Barton Boussimé. Au microphone pour la présentation, c'était Bémois Omar Moudekereza. Au revoir.